Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
RTL. Je suis un aventurier et j'ai beaucoup bourlingué.
RTL.
Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
L'aventure ou l'aventura, comme vous voulez, c'est son métier, ses pieds pour seul mode de transport, la solitude. Pour compagne, Sarah Marquis, notre invitée. Petite fiche d'identité, vous êtes suisse?
Oui.
Vous avez quel âge?
Moi j'ai 44 ans.
Vous mesurez combien?
Alors là, ça dépend avant
moi,
ou après une expédition.
J'ai eu mon indice de masse corporelle tout à l'heure,
c'est
donc
bon.
C'est votre tour.
Ça a son importance.
Avant ou après une expédition, ça change.
La taille?
Ouais.
Ah bon?
Parce que le sac à dos de 32 kilos, après...
Ça vous tasse,
un vraiment? Petit peu, ouais. Ouais.
Ah, c'est dingue.
Et vous perdez quoi? 1, 2 cm?
Après, il faut se faire remettre l'atlas derrière la nuque. Et puis après, on prend un petit centimètre de plus.
Ah oui, et donc j'imagine que le poids, c'est pareil, avant et après.
Oh, bien sûr, avant de partir en expédition, je prends 10 à 15 kilos.
On voulait un peu faire votre portrait robot pour imaginer l'aventurière que vous êtes.
Type.
Vous êtes grande, blonde, avec des yeux verts. Bleu.
Brun.
On est un peu loin.
Enfin bref,
là.
Vous êtes très jolie. Alors, vous allez nous raconter cette aventure, ces mois passés en Australie, dans l'outback australien. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Vous y étiez déjà allé, c'est ça, il y a une dizaine d'années.
Ouais.
Pourquoi il fallait y retourner? En quoi ce nouveau défi était différent?
En fait, l'Australie, pour moi, c'est ma terre de prédilection. C'est un peu chez moi. Donc j'ai fait plus de 20 000 km avec les années, j'ai marché plus de 20 000 km en Australie. Donc il m'a fallu cette expédition qui était un vieux rêve en fait. C'est que ça m'a toujours interpellée de se dire que est-ce que en tant que femme blanche de cette période ici maintenant, est-ce que je suis capable de retrouver mes instincts dits animaux et de survivre?
Pourquoi c'est important de dire femme blanche?
Ben parce que je suis une femme blanche, en fait. C'est mon identité à l'heure actuelle. Parce que je trouve que, en tant que, si j'étais femme aborigène, ce serait dans mes sangs, dans mon sang, dans mes gènes, c'est inscrit en moi. Alors qu'en tant que femme blanche européenne, c'est pas inscrit dans mes gènes à la base.
C'est quoi l'outback en Australie?
Alors l'outback australien, c'est tout ce qui n'est pas peuplé, en fait. C'est ce qui est à l'intérieur des terres. Voilà, ce qui est un petit peu rouge, un petit peu esselé.
Un peu désertique.
Un peu désertique avec deux, trois petits serpents qui traînent et puis beaucoup, beaucoup de mouches.
Cette aventure de l'extrême, Sarah Marquis, vous la racontez dans un formidable livre, Instinct. Et ce mot est important qui vient de paraître chez Michel Lafon. Comment vous vous préparez à une telle aventure? Je rappelle que l'année dernière, vous êtes partie 3 mois, seule, avec un sac à dos de 32 kilos, traverser cet grand ouest sauvage australien.
Alors l'idée, en fait, c'était de me faire déposer avec un hélicoptère tout au nord-ouest de l'Australie. Pour la petite histoire, il n'y a personne. Donc j'ai croisé personne pendant plus d'un mois et demi.
Personne.
Il n'y a pas de traces d'humain, il n'y a pas un chemin, il n'y a rien.
Donc en fait, la préparation, c'est pouvoir s'adapter à une nature hostile et vous débrouiller seul, c'est ça?
Oui, et en fait, il m'a fallu plus de 20 ans d'expérience en terrain hostile pour pouvoir faire cette expédition.
Mais est-ce que dans les mois qui précèdent, par exemple, alors je pense là aux émissions, pardon, parce que ça n'a rien à voir, mais aux émissions de télévision en mode survie, on voit que les candidats, ils prennent du poids avant de venir dans l'émission parce qu'ils savent qu'ils vont avoir du mal à se nourrir. Est-ce que vous partez avec quelques kilos en plus?
Bien sûr, il y a une année de préparation, donc préparation physique. Donc je pars avec un sac à dos de 5 kilos. Je m'entraîne tous les jours. Et donc je pars avec 5 kilos. Deux semaines après, je mets 6 kilos, etc., etc. Jusqu'à ce que je puisse porter mes 32 kilos. Et en même temps, j'ai un entraînement dans l'eau. Je fais du yoga et je fais du cardio. Et puis je prends du poids en même temps. Donc il faut être très attentif à la nutrition. Et je suis végétarienne.
Alors, ce qui n'est pas évident aussi, c'est de partir, on se dit, alors je pars juste avec un sac à dos de 32 kilos. Alors, c'est quand même lourd, 32 kilos, à la fois, c'est vite rempli. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac à dos? Est-ce que vous pesez aussi chaque objet pour pas dépasser le poids que vous êtes fixé?
Bien sûr. Alors, j'ai la chance, à l'heure actuelle, que la technique, en fait, les matériaux sont vraiment développés. Donc, j'arrive à avoir un sac de couchage qui fait 180 grammes. Très efficace.
Il tient dans la main, vous faites
des choses. Oui, c'est comme ça grand. C'est vraiment...
Une tente,
micro-tente,
avec
voilà.
Avec des sardines et tout ça? Non, quand même pas.
Alors, les sardines sont en titane. Voilà.
Plus légère possible.
Qu'est-ce que vous avez comme autre matériel qu'on n'imagine pas, nous, quand vous partez?
Alors, en fait, j'ai des choses qui sont très, très... qui ressemblent à, ça ressemble à un sac de trekking normal. J'ai un tout petit matelas très fin. J'ai une pompe à eau. Avec un filtre céramique à l'intérieur.
Quels outils? Couteaux.
Alors j'ai deux couteaux toujours, okay. Un petit couteau et un gros couteau, un style un petit peu plus machette, très important. Si j'en perds un, j'ai toujours une option, un deuxième plan B. L'idée quand on fait une chose comme ça, c'est tellement extrême, il y a tellement de dangers qui sont autour de moi que en fait. La préparation, elle est vraiment avec l'expérience. Parce que cette capacité dont on parlait tout à l'heure de lâcher prise et de s'intégrer complètement au décor.
C'est-à-dire de lâcher son instinct, en fait.
De lâcher. C'est un peu comme un oignon. C'est un peu comme un oignon qu'on pèle. Il va falloir enlever toutes ces peaux qu'on connaît. C'est-à-dire mon influence culturelle, mon éducation, qui je suis, ce que je représente ici dans la société. Et aller au corps de qui je suis, cet animal, au fond de mes tripes, en fait.
Le sac à dos est prêt, c'est parti pour 3 mois de marche et de lutte pour survivre. On va voir que c'est une attention de chaque seconde, comment échapper aux crocodiles, aux serpents, aux insectes aussi, qu'on n'imagine pas forcément à la fin, la terrible fin, la survie quoi.
La curiosité, c'est jusqu'à 22h sur RTL. Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il n'y avait personne pour l'applaudir et pourtant elle méritait de grands bravos. Notre invitée s'appelle Sarah Marquis, c'est une aventurière. Elle a traversé l'Ouest sauvage australien 3 mois seule à pied en mode survie. Est-ce que c'est un métier, Sarah Marquis, aventurière?
Alors moi j'étais gamine, moi je viens du nord de la Suisse, dans le Jura, et d'un petit village. Donc j'ai deux frères, un grand et un petit, et je suis au milieu, et nous on a couru dans les forêts jurassiennes, on a grimpé aux arbres, et puis après mes frères se sont calmés, et moi j'étais toujours dans la forêt à grimper aux arbres et à parler aux oiseaux, et puis à essayer de voir des oiseaux un peu toutes les couleurs, qui n'y avait pas bien entendu, ça je ne savais pas encore, et puis c'était le début, et puis après j'ai fait une petite fugue dans une grotte avec mon chien, je trouvais ça tellement cool.
Ah oui, il y avait des chauves-souris, c'est super sympa.
Voilà, je trouvais des grosses chauves-souris noires, je trouvais ça tellement génial.
À quel âge vous avez fait ça?
J'avais 7 ans. Voilà.
Ah oui.
Ouais. Et donc oui.
Alors surtout que de leur vie.
Voilà, un peu ça. Ouais. Et puis un pas après l'autre, ça s'est jamais arrêté en fait. Je suis toujours la petite gamine avec la même fascination, c'est de la passion, c'est je sais toujours pas pourquoi je marche. Mais je continue de marcher. J'ai fait une fois le tour de la Terre à pied, si on met toutes mes expéditions ensemble, plus de 44 000 km. Et en fait, je remarque que je ne sais toujours pas pourquoi je marche. Et c'est ça qui est beau.
Il faut continuer de marcher.
Je crois que je vais continuer.
Mais alors moi, je suis très prosaïque. Quand je dis c'est un métier, ça veut dire que vous en vivez?
Alors, vous êtes vous au niveau...
Pardon.
Non, mais c'est pour les...
Moi, j'étais dans quelque
chose de beaucoup plus philosophique.
C'est une très bonne question. C'est un rêve magnifique que vous réalisez. Sauf qu'il y a un moment où il faut le financer.
Bien sûr. Il y a un côté très terre-à-terre qu'il faut assumer. Et puis, donc ça, c'est mon 5e livre. Voilà, donc j'écris. Un jour, j'ai décidé que si j'avais marché tous ces kilomètres, j'étais capable, un, d'en parler et deux, d'écrire.
Et c'est le cas parce que le livre que vous publiez, Instinct, chez Michel Lafon, qui est donc votre 5e livre, est passionnant. Vous y racontez cette expédition dans l'Ouest sauvage australien, seul avec votre sac à dos de 32 kilos. Comment vous vous déplacez? Comment vous vous repérez dans cet outback australien? Parce qu'il n'y a aucun repère, évidemment, il n'y a pas des bornes.
Non.
Il n'y a pas des petites cabines, on ne
vous attend pas. Il n'y a pas de gîte.
Vous ne croisez personne.
Voilà, il n'y a personne. Il n'y a personne. La première, j'ai croisé personne pendant un mois et demi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors c'est un terrain qui est très, très chaotique. Il faut imaginer que ce terrain, il y a deux saisons. Il y a la saison des pluies, où il y a des inondations qui inondent le tout, comme en Asie centrale. Et puis, il y a la saison sèche, qui est la saison des feux de forêt. Donc, vous pouvez choisir l'eau ou le feu de forêt.
Vous avez pris quoi?
J'ai pris feu de forêt, moi.
Il y en a eu?
Alors, il y avait des feux de forêt, voilà. Alors, ça, c'est la problématique numéro une. C'est qu'à tout moment, un feu de forêt peut débarquer. Et un feu de forêt, dans ces régions-là, où les herbes sont très sèches, les eucalyptus ont de la résine, un feu de forêt voyage à 40 km à l'heure. Donc vous n'avez aucune chance.
Vous ne m'avez pas dit comment vous repériez dans
Alors j'arrive. Oui, je m'évade. Alors, c'est tout simple. J'ai une bonne vieille boussole, très importante. La bonne vieille boussole et des bonnes vieilles cartes topographiques.
Vous n'avez pas une routeuse
Alors attention, j'ai un tracker avec moi.
Ouais, c'est donc, quoi ça ?
Un tracker, c'est un système de géolocalisation. Donc en fait, ma famille et mes proches peuvent me suivre et voir exactement où je suis au niveau sécurité déjà. Et puis surtout, c'est très important parce qu'on ne voulait pas me déposer en hélicoptère dans cette région-là, où il n'y a personne et c'est tellement dangereux, sans avoir un backup. Donc les gens de la petite ville où l'hélicoptère a décollé, si je n'avais pas eu mon tracker, ils ne me laissaient pas partir.
D'accord, donc si vous arrive un grave pépin, par on exemple, peut éventuellement intervenir.
Alors ce qui peut arriver dans ces régions-là, pas mal de choses, hein, vu que c'est infesté de crocodiles, de serpents, de feux de forêt. Mais le plus grand danger, c'était une morsure de serpent, par exemple, parce qu'ils sont quasiment tous mortels. Et puis le sérum, eh ben, il doit se trouver au frigo, donc ça limite les options de prendre du sérum avec ça.
Vous ne traînez pas le frigo derrière.
Non.
Vous. Donc c'est pas possible.
Voilà.
Il y a des gens qui vous suivent, hein, j'ai bien compris. Vous avez dit ma famille, mes proches.
Mm-hmm.
Pardon, c'est un peu indiscret, mais vous êtes marié, vous avez des
super
enfants.
Indiscret. Oh, ouais, c'est le seul mec ici. Et,
ouais,
et super indiscret.
Il y a André Facetta, notre réalisateur. Et il y a Coralie qui trouve ma question très bien, c'est ça que je voulais dire.
Je vais vous coucher, Thomas.
Non.
C'est un peu tard.
C'est vrai, c'est qui la famille ? C'est qui la famille de Sarah Marquis ? Moi, je ne me démonte pas. Tout le monde rigole, mais moi, je.
Ouais, je vois que vous êtes très persistant. C'est bien, c'est bien. Un pas après l'autre.
Bac à nous.
Alors, ça, c'est un petit peu ma philosophie. C'est-à-dire, quand on se retrouve devant des problèmes ou des murs.
On le contourne.
Non, pas du tout. On fonce dedans, un pas après l'autre, mais gentiment.
Alors, des rivières, Sarah Marquis, des rivières infestées.
Attendez, elle n'a pas répondu à ma question.
Oh mais moi je suis toute
Est-ce qu'il y a un amoureux ? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont
vous
peur
savez,
pour
je
vous quand
homme,
vous partez comme ça ?
Alors des enfants ça aurait été des pauvres gamins, comme on dit chez nous. Ouais. Parce qu'avoir une maman qui fait ce genre de choses, ça doit être assez terrible. Mmh. Voilà. Et puis le mari ça aurait été un pauvre mari aussi. Voilà. Parce que je suis rarement en fait en Suisse. Je suis toujours un petit peu sur quatre chemins. Entre deux avions ou perdue toute seule dans un terrain isolé et désertique. Voilà.
Alors,
j'ai répondu à votre question.
Ouais, c'est
cool.
Je peux vous laisser tous les deux si vous voulez
Allez-y,
discuter.
Je suis sûr que votre prochaine question est très bien aussi.
Non, mais on est obsédé par cette idée de crocodile. C'est vrai qu'on n'en croise pas beaucoup, nous, dans nos régions. Vous avez dû traverser des rivières, c'est ça, comme dans les films, infestés de crocodiles. Ça se passe comment ? Comment on se prépare ? Qu'est-ce que vous décidez de faire ? Comment vous les évitez ?
Ah, faut bien respirer. Parce qu'ils sont partout, en fait.
Ils se cachent ?
Alors, il y a deux sortes de crocodiles, pour être très précise. Il y a les crocodiles d'eau douce. Voilà. Donc, on est en terrain, on est en eau douce. Et puis, il y a les crocodiles d'eau salée. Mais la complexité commence lorsque les crocodiles d'eau salée peuvent se retrouver en eau douce.
Pourquoi c'est complexe ?
Alors, parce que si vous avez de l'eau salée, vous savez qu'ils sont dans l'eau salée. Si vous êtes de l'eau douce, vous dites, ben, il n'y a que les crocodiles d'eau douce. Et ce n'est pas vrai. Les crocodiles d'eau salée sont aussi là, dans l'eau douce.
Et alors, en quoi ils vous menacent, ces crocodiles ? Leur réflexe premier, c'est quoi ? Ouh ! De la chair humaine, je croque ?
Non, pas du tout. C'est des prédateurs opportunistes. Donc, ils ne chassent pas. Voilà. Donc, ils vont attendre. Leur truc, eux, c'est d'attendre qu'il y ait une proie qui passe sous le nez.
Et alors, comment vous les évitez concrètement, Sarah Marquis, ces crocodiles ?
Alors, les crocodiles d'eau douce, ça se voit.
Ouais.
Ils sont choux, ils sont craquants. Quand je pêche, ils viennent, ils me piquent mon premier poisson, mon deuxième poisson, jusqu'à j'ai trouvé un plan B. C'est-à-dire que je vais feinter en fait de pêcher, me déplacer rapidement 50 mètres plus loin en faisant pas de bruit du tout et en pêchant mon poisson jusqu'à ce qu'ils aient vu que j'avais pris un poisson. C'était trop tard et j'ai réussi à me nourrir de cette manière-là.
Cette vie extraordinaire de Sarah Marquis, on continue de vous la raconter, ce sera juste après les infos.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous êtes curieux et vous nous rejoignez tout de suite sur RTL. Quelle bonne idée, vous êtes les bienvenus. Tout à l'heure, on va voyager autour du monde à bord de trains mythiques comme le Transsibérien.
Et tout de suite, on continue de vous embarquer dans le bush australien avec une aventurière, une vraie. Elle s'appelle Sarah Marquis.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Comment Comment survivre dans l'Ouest sauvage australien sans vivre et seul, absolument seul? C'est le récit passionnant de notre invitée Sarah Marquis qui publie Instinct chez Michel Lafond. Vous nous parliez de ces crocodiles qui sont à peu près les seuls gros êtres vivants que vous croisez.
C'est dommage, ils ont des grandes dents.
C'est dommage. Et puis alors, il y a une règle de vie évidemment, puisque vous dormez pas à l'hôtel, hein, ni dans des gîtes, ni dans des loges. Lodge, vous dormez dans la nature et il y a une règle, c'est qu'il faut surtout pas planter sa tente à côté d'une rivière. Parce que font les crocodiles? Ils sont malins.
Alors les crocodiles, alors, quand on plante sa tente au bord d'un plan d'eau ou d'une rivière ou d'un bilabong, l'inconvénient c'est qu'il y a des habitants un peu partout, y compris dans l'eau. Donc ces fameux crocodiles salés, d'eau salée, ça mange des gros bœufs, ça mange des chevaux sauvages, ça mange un peu tout ce qui est possible, y compris l'homme.
Et donc ça veut dire que les touristes, lisez dans votre livre Instinct, ils en font une sorte de quoi, de nem?
Voilà, alors exactement, on se retrouve en Asie soudainement. Il y a plusieurs touristes qui se sont fait prendre... À ce jeu-là, c'est-à-dire on leur dit ne campez pas vers l'eau, ne campez pas vers l'eau, et qu'est-ce qu'ils font? Ils campent vers l'eau en pensant qu'ils n'ont rien vu, parce qu'on n'arrive pas à les voir, on ne voit pas de signes très apparents de leur présence, donc on se dit, il n'y a pas de crocodile. Et en fait, ils sont là sous l'eau, ils attendent, et les pauvres ignorants qui ont campé au bord de l'eau, eh bien le crocodile arrive la nuit. Donc c'est un saurien, donc il se développe sur les pattes avant et arrière, et il arrive très silencieusement, il croque la tente depuis le fond de la tente, et il tourne la tente dans une vitesse incroyable, comme dans une machine à laver, et puis le touriste n'arrive pas à sortir de la tente jusqu'à ce qu'il soit vraiment dans l'eau, et il est comme ça tiré dans l'eau, et puis on va le mettre sous un petit tronc macéré quelques temps, jusqu'à ce qu'il soit bien tendre.
Quelle horreur!
Donc c'est ça, c'est un prédateur silencieux. Donc c'est-à-dire
les croisés, pardon, je vous interromps, oui. C'est un marquis, mais des crocodiles, il y en a sur un voyage de 3 mois comme ça.
Ah, ils sont partout.
Ils sont partout.
Ouais.
Mais vous avez peur.
Donc c'est-à-dire, ouais, voilà, c'est ça. Alors ce qu'il faut faire très attention, c'est que c'est une attention de chaque instant. Donc il faut pas relâcher son attention, jamais, jamais.
Or, trouver de l'eau, c'est une obsession, puisque vous êtes parti 32 kilos dans un sac à dos. Évidemment, il n'y a pas de réserve d'eau.
Non.
La faim et l'eau, enfin la nourriture et l'eau, c'est une quête permanente. Comment vous réussissez à trouver de quoi manger, de quoi boire?
Alors ça, c'est vraiment l'accomplissement de ces 20 ans de marche que j'ai derrière moi et plus. Je connais toute la pharmacopée australienne, je connais tous les arbres que je peux rencontrer. C'est un milieu que je connais bien. Malgré tout, il faut avoir une connaissance plus subtile. Par exemple, le décor se lit comme une carte au trésor, en fait. Un petit détail fait toute son importance. Par exemple, si je vois un petit oiseau avec un bec rouge, qui est un diamond finch, qui se pose sur un arbre précis, je sais qu'il y a pertinemment de l'eau à 5 km à la ronde.
Pourquoi ?
Parce que je connais l'arbre, je connais l'oiseau et je sais ce que je vais trouver sous l'arbre comme plante. Et tout est lié. En Australie, c'est un pays très spécial où les oiseaux, certaines espèces endémiques, ont des comportements qui sont reliés à l'arbre.
Alors par exemple, vous régalez d'un arbre orangina, c'est comme ça que vous l'appelez?
Oui.
Dans votre récit. C'est quoi?
Il m'a perturbé, ce pauvre petit arbre. Alors j'avais tellement faim parce que je marchais 12 heures par jour et en fait, l'énergie que je dépensais pour la remplacer en fait au niveau calorifique, elle est énorme. Donc j'avais constamment une faim horrible. Donc après une semaine, je pensais que j'avais faim, mais après trois mois, c'est toute une histoire. Il y a l'estomac, la paroi de l'estomac qui colle ensemble. C'est vraiment quelque chose de terrible d'avoir faim. Mais pour me revenir à ce petit arbre orangina, il y a un arbre qui est plein de fruits. Il est tellement plein de fruits que les branches tombent. Les branches sont tellement lourdes qu'elles sont prêtes à craquer. Et ce petit arbre, il m'a taquiné tout au long de mon expédition. Il a des fruits et l'inconvénient, c'est que c'est des fruits rouges.
Pourquoi c'est un inconvénient?
Alors tout ce qui est rouge, c'est un code couleur qu'il faut respecter, de danger. Voilà, vous êtes prête pour venir avec moi à vous?
Lui
un peu moins, mais...
Non, j'ai bien senti là, ma question trop intrusive, surcalée.
Vous êtes mariée, tout
non,
ça.
J'ai compris que j'étais plus invitée, Sarah Marquis, il n'y a pas de problème. Et donc, tous les fruits rouges...
Non, tout ce qui est rouge, c'est des codes couleurs.
Quand on meurt de faim, ça doit être horrible.
Alors justement...
Il n'y a pas d'exception.
Non, mais tentation. tentation. Pensez bien que j'ai pas baissé les bras devant ce fruit rouge que j'ai testé. Donc, tout fruit, plante, etc., que je ne connais pas, parce qu'il y a quand même plein d'espèces que je ne connais pas, il faut alors prendre le fruit ou la plante ou la feuille et la frotter à l'avant de son poignet. On a à l'avant de son poignet la peau sur le corps la plus fine qu'on a. Donc très sensible. Et puis attendre pour une petite réaction, une petite rougeur, quelque chose qui se passe, ou une gêne, ou un picotement, bref. Alors, et puis après, on met dans la bouche, à l'intérieur de la bouche, etc. Donc il y a tout un processus à suivre pour savoir si une plante est comestible. Bref, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça du tout. Je suis tellement tentée par la côté parfait de ce petit fruit qui était magnifique, pas brillant mais mat, avec une peau translucide, enfin un fruit parfait, le fruit défendu. Je croque dedans. Et là, surprise totale, ça a un goût horrible de quinine. J'ai l'impression d'avoir bu un Schweppes en stéroïde, en fait. Quelque
D'accord,
chose comme ça.
En concentré, oui.
Ah, mais
ça.
Terrible, terrible, terrible. Et là, je recrache, bien entendu, et je continue. Mais le lendemain, je recrois ce petit arbre qui vient me narguer sur ma route et je retente l'expérience. Mmh. Et j'ai eu cette habitude de jouer avec le feu, comme ça, un petit peu, le long de ma route, avec ce petit arbre. Donc, à chaque fois, en goûtant un fruit, jusqu'au jour où j'ai mangé trop de ces fruits et j'ai eu... j'arrivais plus à faire le focus sur le paysage que j'avais autour de moi. J'ai la vision qui commençait à ne plus se faire et j'ai perdu la vue.
Pendant combien de temps ?
Alors pendant quelques minutes, donc je me suis assis en rigolant, je me suis dit il m'a bien eu lui, ça va plus me reprendre.
Justement, qu'est-ce qu'on fait quand on tombe malade, seul, comme ça au milieu du désert australien ? Réponse tout de suite.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
RTL.
En tant que femme, c'est un petit peu plus dur qu'un homme. Pouvoir survivre dans ces endroits-là et d'être aujourd'hui là à vous parler, c'est parce que je suis toujours attentive.
La curiosité est un vilain défaut.
La nature, elle se lit, elle se comprend, aussi difficile qu'elle puisse être. L'humain, on n'arrive pas à savoir quel est son prochain geste.
Jusqu'à 22h.
C'est des moments magiques avec la nature. Vous savez, quand on se dit, à un moment donné, dans sa vie, on se trouve au bon endroit, au bon moment.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Notre invitée Sarah Marquis, c'était au micro de Thierry Demézière dans l'émission 7 à 8, que je connais bien, coucou au producteur. C'est une leçon de vie, une leçon de survie qu'on prend dans la curiosité avec vous. Je le rappelle, vous avez passé 3 mois dans l'Australie sauvage et vous publiez ce très beau livre « Instinct » chez Michel Lafond. Vous nous avez dit tout à l'heure, pendant un mois et demi, je vois personne. Donc, au bout d'un mois et demi, vous voyez un être humain.
Ouais.
C'était qui ?
Alors, je suis arrivée au bord d'une rivière. J'étais impatiente d'arriver au bord de cette espèce de rivière à moitié sèche parce qu'il fallait que je pêche. Voilà. Moi, si j'ai pas d'eau, c'est-à-dire j'ai pas de poisson. Donc, j'arrive pas. Le poisson, c'était ma source de nourriture principale avec les graines de baobab. Et j'arrive focus sur mon eau et ma rivière. Je suis là, oh, y a de l'eau, c'est génial, je vais pouvoir pêcher. Et là, j'entends des voix. Et je vois des gens avec une 4x4 qui sont en train de camper de l'autre côté de la rivière. Et là, je les observe pour voir, comme un animal sauvage, un peu. Il y a vraiment une appréhension de voir des humains. C'est assez fou. Et je me dis, mais ils vont avoir peur, les pauvres, de me voir dans cet état-là. Parce qu'il faut bien se dire que, ben, vu mon état, j'ai perdu 12 kilos au bout de 3 semaines. Je vis dans des conditions très très difficiles et je suis sale. J'ai mes vêtements qui sont complètement imprégnés de cette vie sauvage à l'extérieur. Et puis en même temps, cette appréhension, elle est retrouvée de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils me regardent comme une bête sauvage aussi. Donc il y a ce moment où on s'observe et on dit rien. Et on s'observe et je me suis dit, mais il faut que j'aille leur parler parce qu'ils vont appeler la police ou Dieu sait quoi. Et il ne faut pas qu'ils aient peur. Alors j'enlève mon chapeau parce que j'ai un espèce de chapeau qui me protège de ce soleil. Il fait plus de 40 degrés pour qu'ils voient que je suis une femme en fait et que je suis plus ou moins normale. Et puis qu'ils peuvent me parler et j'entame une conversation depuis de l'autre côté de la rivière, en fait.
Hey
guys, how are you doing today? Et surtout que eux, ils n'arrivaient pas à imaginer. Ils ont fait des jours et des jours et des jours et des jours de 4x4 pour arriver là, qu'il y ait quelqu'un qui débarque du bush comme ça. Hey guys, how are you doing?
Avec sans rien.
Et surtout arriver de cet endroit-là, parce que j'ai dû traverser une rivière qui s'appelle la Durack River avant, qui est infestée de crocodiles. Et donc la probabilité que j'arrive de cet endroit-là, elle était de pas grande chance en fait.
Alors vous parlez de cette rivière qui vous fait rêver, vous allez pouvoir pêcher, mais vous dites pas que vous allez pouvoir vous laver. J'imagine que c'est un rêve quand on trouve de l'eau, non,
ouais.
Marcher des jours et des jours sans pouvoir se laver. Un petit shampoing?
Alors ça passe un peu au deuxième plan en fait. Et je me lave par bout. Donc un jour c'est le jour des pieds, un jour c'est le jour des cheveux, un jour c'est le jour, etc. On se lave jamais en une fois. Et quand j'en parle dans le livre, on peut découvrir toutes les images de toute ma nourriture, toutes les petites baies que j'ai pu collecter et toutes les techniques de survie que j'ai. Mais en plus, quand je dis que dans le bush australien, il y a tout, il y a vraiment tout. Et il y a aussi, y compris, mon savon et mon shampoing naturel.
Vous le trouvez où ce shampoing?
Alors, il se trouve sur un arbre. Alors, mais il est sensationnel. Alors, il se trouve sur un arbre. C'est une espèce de frisure végétale. On la frotte sous l'eau et puis ça fait, il y a de la saponine à l'intérieur, donc ce qu'il y a dans le savon, et puis ça fait un vrai, vrai savon et shampoing pour les cheveux, incroyable.
Quelle est votre prochaine destination?
La prochaine destination.
Vous y pensez déjà, évidemment.
Oui, bien sûr.
Je ne suis pas invitée, je suis déçue.
Quelle est notre prochaine
destination? Voilà, exactement. Elle voudrait savoir quand même.
C'est mon humilité.
Non, alors une destination ne se décide pas comme ça, et c'est souvent elle qui vient à moi. Alors j'ai une grosse envie, elle est précise mais elle n'est pas encore très nette, donc je vais aller voir sur place.
Quel continent?
Ça j'en dirai pas plus, je vais vraiment aller voir sur place, sentir, respirer, et puis après je reviens vous en parler.
Alors qu'est-ce que vous me conseillez? Je vais remplir mon sac de livres, c'est ça? Je le porte sur l'épaule gauche, sur l'épaule droite pour m'entraîner?
Ah, moi je mets du bois dedans.
Du bois? Ouais. Ah ben ça marche aussi. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est un bonheur de vous avoir au micro de la curiosité. Et pour prolonger cette aventure extraordinaire, Instinct, c'est aux éditions Michel Lafon, avec de très belles photos d'une photographe qui vous a rejoint vraiment sur les tout derniers jours de l'expédition.
Et dans un instant, on voyage à bord de train de légende.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Vous écoutez RTL.